Chapitre 48 Le mendiant de Saint-Eustache. D'Artagnan avait calculé ce qu'il faisait en ne se rendant pas immédiatement au Palais-Royal. Il avait donné le temps à Comminges de s'y rendre avant lui et, par conséquent, de faire part au cardinal des services éminents que lui, D'Artagnan, et son ami avaient rendus dans cette matinée au parti de la reine. Aussi, tous deux furent-ils admirablement reçus par Mazarin, qui leur fit force compliments et qui leur annonça que chacun d'eux était à plus de moitié chemin de ce qu'il désirait, c'est-à-dire D'Artagnan de son capitanat et Porthos de sa baronnie. D'Artagnan aurait mieux aimé de l'argent que tout cela, car il savait que Mazarin promettait facilement et tenait avec grand-peine. Il estimait donc les promesses du cardinal comme viande creuse. Mais il ne parut pas moins très satisfait devant Porthos, qui ne voulait pas décourager. Pendant que les deux amis étaient chez le cardinal, la reine le fit demander. Le cardinal pensa que c'était un moyen de redoubler le zèle de ses deux défenseurs en leur procurant les remerciements de la reine elle-même. Il leur fit signe de le suivre. D'Artagnan et Porthos lui montrèrent leurs habits tout poudreux et tout déchirés, mais le cardinal secoua la tête. « Ces costumes-là, dit-il, valent mieux que ceux de la plupart des courtisans que vous trouverez chez la reine, car ce sont des costumes de bataille. » D'Artagnan et Porthos obéirent. La cour d'Anne d'Autriche était nombreuse et joyeusement bruyante, car, à tout prendre, après avoir remporté une victoire sur l'Espagnol, on venait de remporter une victoire sur le peuple. Broussel avait été conduit hors de Paris sans résistance et devait être à cette heure dans les prisons de Saint-Germain. Et Blanc-Ménil, qui avait été arrêté en même temps que lui, mais dont l'arrestation s'était opérée sans bruit et sans difficulté, était écroué au château de Vincennes. Comminges était près de la reine, qui l'interrogeait sur les détails de son expédition. Et chacun écoutait son récit, lorsqu'il aperçut à la porte, derrière le cardinal qui entrait, D'Artagnan et Porthos. Eh, madame, dit-il courant à D'Artagnan, voici quelqu'un qui peut vous dire cela mieux que moi, car c'est mon sauveur. Sans lui, je serais probablement dans ce moment arrêté au filet de Saint-Cloud, car il ne s'agissait de rien moins que de me jeter à la rivière. Parlez, D'Artagnan, parlez. Depuis qu'il était lieutenant aux mousquetaires, D'Artagnan s'était trouvé 100 fois peut-être dans le même appartement que la reine, mais jamais celle-ci ne lui avait parlé. « Eh bien, monsieur, après m'avoir rendu un pareil service, vous vous taisez ?» dit Anne d'Autriche. « Madame, répondit D'Artagnan, je n'ai rien à dire, sinon que ma vie est au service de votre majesté et que je ne serai heureux que le jour où je la perdrai pour elle. « Je sais cela, monsieur, je sais cela, dit la reine, et depuis longtemps. Aussi suis-je charmé de pouvoir vous donner cette marque publique de mon estime et de ma reconnaissance. Permettez-moi, madame, dit D'Artagnan, d'en reverser une part sur mon ami, ancien mousquetaire de la compagnie de Tréville, comme moi, il appuya sur ces mots, et qui a fait des merveilles, ajouta-t-il. Le nom de monsieur, demanda la reine. Au mousquetaire, dit D'Artagnan, il s'appelait Porthos. La reine tressaillit. Mais son véritable nom est le chevalier du Vallon. Deux Bracieux, deux Pierrefonds, ajouta Porthos. Ces noms sont trop nombreux pour que je me les rappelle tous, et je ne veux me souvenir que du premier, dit gracieusement la reine. Porthos salua. D'Artagnan fit 2 pas en arrière. En ce moment, on annonça le coadjuteur. Il y eut un cri de surprise dans la royale assemblée. Quoique monsieur le coadjuteur eût prêché le matin même, on savait qu'il penchait fort du côté de la Fronde. Et Mazarin, en demandant à monsieur l'archevêque de Paris de faire prêcher son neveu, avait eu évidemment l'intention de porter à monsieur de Retz une de ses bottes à l'italienne qui le réjouissait si fort. En effet, au sortir de Notre-Dame, le coadjuteur avait appris l'événement. Quoique à peu près engagé avec les principaux frondeurs, il ne l'était point assez pour qu'il ne pût faire retraite si la cour lui offrait les avantages qu'il ambitionnait et auxquels la coadjuteurie n'était qu'un acheminement. M. de Retz voulait être archevêque en remplacement de son oncle et cardinal comme Mazarin. Or, le parti populaire pouvait difficilement lui accorder ses faveurs toutes royales. Il se rendait donc au palais pour faire compliment à la reine sur la bataille de Lens, déterminé d'avance à agir pour ou contre la cour, selon que son compliment serait bien ou mal reçu. Le coadjuteur fut donc annoncé. Il entra, et, à son aspect, toute cette cour triomphante redoubla de curiosité pour entendre ses paroles. Le coadjuteur avait à lui seul à peu près autant d'esprit que tous ceux qui étaient réunis là pour se moquer de lui. Aussi son discours fut-il si parfaitement habile que, si bonne envie que les assistants eussent d'en rire, il n'y trouvait point prise. Il termina en disant qu'il mettait sa faible puissance au service de sa majesté. La reine parut, tout le temps qu'elle dura, goûter fort la harangue de monsieur le coadjuteur. Mais cette harangue terminée par cette phrase, la seule qui donna prise au quolibé, Anne se retourna et d'un coup d'œil décoché vers ses favoris, leur annonça qu'elle leur livrait le coadjuteur. Aussitôt, les plaisants de cour se lancèrent dans la mystification. Nogent Bautru, le bouffon de la maison, s'écria que la reine était bien heureuse de trouver les secours de la religion dans un pareil moment. Chacun éclata de rire. Le comte de Villeroy dit qu'il ne savait pas comment on avait pu craindre un instant, quand on avait pour défendre la cour contre le Parlement et les bourgeois de Paris, monsieur le coadjuteur, qui, d'un signe, pouvait lever une armée de curés, de Suisses et de Bedeaux. Le maréchal de la Meilleraie ajouta que, le cas échéant où l'on en viendrait aux mains, et où monsieur le coadjuteur ferait le coup de feu, il était fâcheux seulement que monsieur le coadjuteur ne pût pas être reconnu à un chapeau rouge dans la mêlée, comme Henri IV l'avait été à sa plume blanche à la bataille d'Ivry. Gondy, devant cet orage qu'il pouvait rendre mortel pour les railleurs, demeura calme et sévère. La reine lui demanda alors s'il avait quelque chose à ajouter au beau discours qu'il venait de lui faire. « Oui, madame, dit le coadjuteur, j'ai à vous prier d'y réfléchir à deux fois avant de mettre la guerre civile dans le royaume. » La reine tourna le dos et les rires recommencèrent. Le coadjuteur salua et sortit du palais en lançant au cardinal qui le regardait un de ces regards qu'on comprend entre ennemis mortels. Ce regard était si acéré qu'il pénétra jusqu'au fond du cœur de Mazarin et que celui-ci, sentant que c'était une déclaration de guerre, saisit le bras de D'Artagnan et lui dit « Dans l'occasion, monsieur, vous reconnaîtrez bien cet homme qui vient de sortir, n'est-ce pas ?»« Oui, monseigneur, dit-il. » Puis, se tournant à son tour vers Porthos. « Diable, dit-il, cela se gâte. Je n'aime pas les querelles entre les gens d'église. » Gondy se retira en semant les bénédictions sur son passage et en se donnant le malin plaisir de faire tomber à ses genoux jusqu'aux serviteurs de ses ennemis. « Oh » murmura-t-il en franchissant le seuil du palais, « cours ingrate, cours perfide, cours lâche. Je t'apprendrai demain à rire, mais sur un autre ton. » Mais, tandis que l'on faisait des extravagances de joie au palais royal pour enchérir sur l'hilarité de la reine, Mazarin, homme de sens, et qui d'ailleurs avait toute la prévoyance de la peur, ne perdait pas son temps à de vaines et dangereuses plaisanteries. Il était sorti derrière le coadjuteur, assurait ses comptes, serrait son or, et faisait par des ouvriers de confiance pratiquer des cachettes dans ses murailles. En rentrant chez lui, le coadjuteur apprit qu'un jeune homme était venu après son départ et l'attendait. Il demanda le nom de ce jeune homme et tressaillit de joie en apprenant qu'il s'appelait Louvière. Il courut aussitôt à son cabinet. En effet, le fils de Broussel, encore tout furieux et tout sanglant, de la lutte contre les gens du roi, était là. La seule précaution qu'il eût prise pour venir à l'archevêché avait été de déposer son arquebuse chez un ami. Le coadjuteur alla à lui et lui tendit la main. Le jeune homme le regarda comme s'il eût voulu lire au fond de son cœur. « Mon cher monsieur Louvière, dit le coadjuteur, croyez que je prends une part bien réelle au malheur qui vous arrive. »« Est-ce vrai ? Et parlez-vous sérieusement ? Dit Louvière. » « Du fond du cœur, dit de Gondi. En ce cas, monseigneur, le temps des paroles est passé et l'heure d'agir est venue. Monseigneur, si vous le voulez, mon père, dans 3 jours, sera hors de prison et dans 6 mois, vous serez cardinal. » Le coadjuteur tressaillit. « Oh, parlons franc, dit Louvière, et jouons carte sur table. On ne sème pas pour 30 000 écus d'aumône comme vous l'avez fait depuis 6 mois, par pure charité chrétienne. Ce serait trop beau. Vous êtes ambitieux, c'est tout simple. Vous êtes homme de génie et vous sentez votre valeur. Moi, je hais la cour et n'ai en ce moment-ci qu'un seul désir, la vengeance. Donnez-nous le clergé et le peuple dont vous disposez. Moi, je vous donne la bourgeoisie et le parlement. Avec ces 4 éléments, dans 8 jours, Paris est à nous et croyez-moi, monsieur le coadjuteur, la cour donnera par crainte ce qu'elle ne donnerait pas par bienveillance. » Le coadjuteur regarda à son tour Louvière de son œil perçant. « Mais, monsieur Louvière, savez-vous que c'est tout bonnement la guerre civile que vous me proposez là ? Vous la préparez depuis assez longtemps, monseigneur, pour qu'elle soit la bienvenue de vous. » « N'importe, dit le coadjuteur, vous comprenez que cela demande réflexion. » « Et combien d'heures demandez-vous »« 12 heures, monsieur. Est-ce trop ?»« Il est midi. À minuit, je serai chez vous. Si je n'étais pas rentré, attendez-moi. »« À merveille. À minuit, monseigneur. »« À minuit, mon cher monsieur Louvière. » Resté seul, Gondi manda chez lui tous les curés avec lesquels il était en relation. 2 heures après, il avait réuni 30 des servants des paroisses les plus populeuses et par conséquent les plus remuantes de Paris. Gondi leur raconta l'insulte qu'on venait de lui faire au Palais-Royal et rapporta les plaisanteries de Bautru, du comte de Villeroy et du maréchal de la Meilleraie. Les curés lui demandèrent ce qu'il y avait à faire. « C'est tout simple, dit le coadjuteur. Vous dirigez les consciences, eh bien, s'apaisit ce misérable préjugé de la crainte et du respect des rois. Apprenez à vos ouailles que la reine est un tyran et répétez, tant et si fort que chacun le sache, que les malheurs de la France viennent du Mazarin, son amant et son corrupteur. Commencez l'œuvre aujourd'hui, à l'instant même, et dans 3 jours, je vous attends au résultat. En outre, si quelqu'un de vous a un bon conseil à me donner, qu'il reste, je l'écouterai avec plaisir. » 3 curés restèrent, celui de Saint-Méry, celui de Saint-Sulpice et celui de Saint-Eustache. Les autres se retirèrent. « Vous croyez donc pouvoir m'aider encore plus efficacement que vos confrères ? Dit de Gondi. « Nous l'espérons, reprirent les curés. « Voyons, monsieur le desservant de Saint-Méry, commencez. « Monseigneur, j'ai dans mon quartier un homme qui pourrait vous être de la plus grande utilité. Quel est cet homme? Un marchand de la rue des Lombards qui a la plus grande influence sur le petit commerce de son quartier. Comment l'appelez-vous? C'est un nommé Plancher. Il avait fait à lui seul une émeute il y a 6 semaines à peu près. Mais à la suite de cette émeute, comme on le cherchait pour le pendre, il a disparu. Et le retrouverez-vous? « Je l'espère, je ne crois pas qu'il ait été arrêté, et comme je suis confesseur de sa femme, si elle sait où il est, je le saurai. Bien, monsieur le curé, cherchez-moi cet homme-là, et si vous me le trouvez, amenez-le-moi. À quelle heure, monseigneur ? À 6 heures, voulez-vous ? Nous serons chez vous à 6 heures, monseigneur. Allez, mon cher curé, allez, et que Dieu vous seconde. » Le curé sortit. « Et vous, monsieur ?» dit Gondy en se retournant vers le curé de Saint-Sulpice. « Moi, monseigneur, dit celui-ci, je connais un homme qui a rendu de grands services à un prince très populaire, qui ferait un excellent chef de révolté et que je puis mettre à votre disposition. « Comment nommez-vous cet homme ?»« Monsieur le comte de Rochefort. » « Je le connais aussi. Malheureusement, il n'est pas à Paris. « Monseigneur, il est rue Cassette. « Depuis quand ?»« Depuis 3 jours déjà. « Et pourquoi n'est-il pas venu me voir ?»« On lui a dit... « Monseigneur me pardonnera. » »« Sans doute, dites. » »« Que Monseigneur était en train de traiter avec la cour. » Gondy se mordit les lèvres. « On l'a trompé. » « Amenez-le-moi à 8 heures, monsieur le curé, et que Dieu vous bénisse comme je vous bénis. » Le second curé s'inclina et sortit. « À votre tour, monsieur, dit le coadjuteur en se tournant vers le dernier restant. « Avez-vous aussi bien à m'offrir que ces 2 messieurs qui nous quittent ?»« Mieux, monseigneur. » »« Diable, faites attention que vous prenez là un terrible engagement. L'un m'a offert un marchand, l'autre m'a offert un comte. » Vous allez donc m'offrir un prince, vous ?
Je vais vous offrir un mendiant, monseigneur.
Ah ah ! Dit Gondy en réfléchissant. Vous avez raison, monsieur le curé. Quelqu'un qui soulèverait toute cette légion de pauvres qui encombrent les carrefours de Paris et qui saurait leur faire crier assez haut pour que toute la France l'entendît que c'est le Mazarin qui les a réduits à la besace. Justement, j'ai votre homme. Bravo ! « Et quel est cet homme ?»« Un simple mendiant, comme je vous l'ai dit, monseigneur, qui demande l'aumône en donnant de l'eau bénite sur les marches de l'église Saint-Eustache depuis 6 ans à peu près. »« Et vous dites qu'il a une grande influence sur ses pareils ?»« Monseigneur sait-il que la mendicité est un corps organisé, une espèce d'association de ceux qui ne possèdent pas contre ceux qui possèdent ?» Une association dans laquelle chacun apporte sa part et qui relève d'un chef ?
Oui, j'ai entendu dire cela, reprit le coadjuteur.
Eh bien, cet homme que je vous offre est un syndic général.
Et que savez-vous de cet homme ?
Rien, monseigneur, sinon qu'il me paraît tourmenté de quelques remords.
Qui vous le fait croire ?
Tous les 28 de chaque mois, il me fait dire une messe pour le repos de l'âme d'une personne morte de mort violente. Hier encore, j'ai dit cette messe.
Et vous l'appelez ?
Maillard. Mais je ne pense pas que ce soit son véritable nom.
Et croyez-vous qu'à cette heure, nous le trouvions à son poste ?
Parfaitement.
Allons voir votre mendiant, monsieur le curé. Et s'il est tel que vous me le dites, vous avez raison, c'est vous qui aurez trouvé le véritable trésor.
Et Gondy s'habilla en cavalier, mit un large feutre avec une plume rouge, ceignit une longue épée, boucla des éperons à ses bottes, s'enveloppa d'un ample manteau et suivit le curé. Le coadjuteur et son compagnon traversèrent toutes les rues qui séparent l'archevêché de l'église Saint-Eustache, examinant avec soin l'esprit du peuple. Le peuple était ému, mais comme un essaim d'abeilles effarouchées, semblait ne savoir sur quelle place s'abattre, et il était évident que, si l'on ne trouvait des chefs à ce peuple, tout se passerait en bourdonnement. En arrivant à la rue des Prouvaires, le curé étendit la main vers le parvis de l'église. « Tenez, dit-il, le voilà, il est à son poste. » Gondy regarda du côté indiqué et aperçut un pauvre assis sur une chaise et adossé à une des moulures. Il avait près de lui un petit seau et tenait un goupillon à la main.
« Est-ce par privilège ? Dit Gondy qu'il se tient là.
« Non, monseigneur, dit le curé. Il a traité avec son prédécesseur de la place de donneur d'eau bénite.
« Traité ?
Oui, ces places s'achètent. Je crois que celui-ci a payé la sienne 100 pistoles.
« Le drôle est donc riche ?
Quelques-uns de ces hommes meurent en laissant parfois 20 000, 25 000, 30 000 livres et même plus.
« Hein ! Dit Gondy en riant, je ne croyais pas si bien placer mes aumônes. » Cependant, on s'avançait vers le parvis. Au moment où le curé et le coadjuteur mettaient le pied sur la première marche de l'église, le mendiant se leva et tendit son goupillon. C'était un homme de 66 à 68 ans, petit, assez gros, aux cheveux gris, aux yeux fauves. Il y avait sur sa figure la lutte de deux principes opposés, une nature mauvaise domptée par la volonté, peut-être par le repentir. En voyant le cavalier qui accompagnait le curé, il tressaillit légèrement et le regarda d'un air étonné. Le curé et le coadjuteur touchèrent le goupillon du bout des doigts et firent le signe de la croix. Le coadjuteur jeta une pièce d'argent dans le chapeau qui était à terre. « Maillard, dit le curé, nous sommes venus, monsieur et moi, pour causer un instant avec vous. »«
Avec moi, dit le mendiant, c'est bien de l'honneur pour un pauvre donneur d'eau bénite. »
Il y avait dans la voix du pauvre un accent d'ironie qu'il ne put dominer tout à fait et qui étonna le coadjuteur.
« Oui, continua le curé, qui semblait habitué à cet accent, oui, nous avons voulu savoir ce que vous pensiez des événements d'aujourd'hui et ce que vous en avez entendu dire aux personnes qui entrent à l'église et qui en sortent. »
Le mendiant hocha la tête.
« Ce sont de tristes événements, monsieur le curé, qui, comme toujours, retombent sur le pauvre peuple. Quant à ce qu'on en dit, tout le monde est mécontent, tout le monde se plaint, mais qui dit tout le monde ne dit personne.
« Expliquez-vous, mon cher ami, dit le coadjuteur.
Je dis que tous ces cris, toutes ces plaintes, toutes ces malédictions ne produiront qu'une tempête et des éclairs, voilà tout. Mais que le tonnerre ne tombera que lorsqu'il y aura un chef pour le diriger.
Mon ami, dit Gondi, vous me paraissez un habile homme. Seriez-vous disposé à vous mêler d'une petite guerre civile, dans le cas où nous en aurions une, et à mettre à la disposition de ce chef, si nous en trouvions un, votre pouvoir personnel et l'influence que vous avez acquise sur vos camarades ?
Oui, monsieur, pourvu que cette guerre fût approuvée par l'Église, et par conséquent pût me conduire au but que je veux atteindre, c'est-à-dire à la rémission de mes péchés.
Cette guerre sera non seulement approuvée, mais encore dirigée par elle. Quant à la rémission de vos péchés, nous avons monsieur l'archevêque de Paris qui tient de grands pouvoirs de la cour de Rome et même monsieur le coadjuteur qui possède des indulgences plénières, nous vous recommanderions à lui.
Songez, Maillard, dit le curé, que c'est moi qui vous ai recommandé à monsieur, qui est un seigneur tout-puissant et qui, en quelque sorte, est répondu de vous.
Je sais, monsieur le curé, dit le mendiant, que vous avez toujours été excellent pour moi. Aussi, de mon côté, suis-je tout disposé à vous être agréable.
Et croyez-vous votre pouvoir aussi grand sur vos confrères que me le disait tout à l'heure monsieur le curé ?
Je crois qu'ils ont pour moi une certaine estime, dit le mendiant avec orgueil, et que non seulement ils feront tout ce que je leur ordonnerai, mais encore que partout où j'irai, ils me suivront. Et pouvez-vous me répondre de 50 hommes bien résolus, de bonnes âmes oisives et bien animées, de braillards capables de faire tomber les murs du Palais-Royal en criant « À bas le Mazarin !» comme tombaient autrefois ceux de Jéricho.
Je crois, dit le mendiant, que je puis être chargé de choses plus difficiles et plus importantes que cela.
Ah ah, dit Gondi, vous chargeriez-vous donc dans une nuit de faire une dizaine de barricades ?
Je me chargerai d'en faire 50 et le jour venu de les défendre.
Pardieu, dit de Gondi, vous parlez avec une assurance qui me fait plaisir. Et puisque monsieur le curé me répond de vous,
j'en réponds, dit le curé.
Voici un sac contenant 500 pistoles en or. Faites toutes vos dispositions et dites-moi où je puis vous retrouver ce soir à 10 heures.
Il faudrait que ce fût dans un endroit élevé et d'où un signal fait pût être vu dans tous les quartiers de Paris.
Voulez-vous que je vous donne un mot pour le vicaire de Saint-Jacques-la-Boucherie ? Il vous introduira dans une des chambres de la tour, dit le curé.
À merveille, dit le mendiant.
Donc, dit le coadjuteur, ce soir à 10 heures. Et si je suis content de vous, il y aura à votre disposition un autre sac de 500 pistoles. Les yeux du mendiant brillèrent d'avidité, mais il réprima cette émotion. « À ce soir, monsieur, répondit-il, tout sera prêt. » Et il reporta sa chaise dans l'église, rangea près de sa chaise son seau et son goupillon, alla prendre de l'eau bénite au bénitier, comme s'il n'avait pas confiance dans la sienne, et sortit de l'église.